C'est une parole solennelle pour chacun de nous, parce qu'elle nous invite à nous examiner, à examiner notre vie de disciple si nous disons que Jésus est notre Seigneur. Et je vous invite à lire les deux versets de notre passage qui se trouvent dans Matthieu au chapitre 7, les versets 21 et 23. Matthieu 7, 21, 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » De quoi est-il question dans ce passage ? Nous allons ce matin avancer dans la compréhension de notre texte au travers de différentes questions. Et la première de ces questions est donc « De quoi est-il question ?» dans ce passage. Soulignons tout d'abord que notre passage fait partie de la fin du sermon sur la montagne et en particulier de la conclusion que Jésus apporte à tout ce qu'il a dit dans les chapitres précédents. Conclusion où Jésus, par le biais de quatre petites sections, qui commencent au verset 13 jusqu'au verset 27, où Jésus, par le biais de ces quatre petites sections, met ses disciples, et je rappelle ici que le sermon sur la montagne est adressé aux disciples de Jésus, il met donc ses disciples devant la nécessité, pour entrer dans le royaume des cieux, de répondre sincèrement à ses demandes en mettant en pratique sa parole, son enseignement. Ainsi, dans la première de ces sections qui composent cette conclusion, les versets 13 à 14, il est question de passer par la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie et que peu trouvent, et non pas par la porte spacieuse et le chemin spacieux qui mène à la perdition et que beaucoup empruntent. Ainsi, dans la deuxième section de cette conclusion, qui va du verset 15 au verset 20, il est question de veiller à se garder des faux prophètes, des prophètes de mensonges, qui viennent dans le troupeau, parmi le peuple de Dieu, déguisés en moutons, mais qui sont en réalité des loups voraces, que l'on peut néanmoins reconnaître aux mauvais fruits qu'ils portent. Ainsi, dans la quatrième section de cette conclusion, les versets 24 à 27, il est question de construire sa vie avec sagesse, sa maison, c'est l'image utilisée, sur la mise en pratique des paroles de Jésus, afin de résister aux jours mauvais, c'est vrai ici-bas et c'est vrai au jour du jugement dernier. Et puis enfin, dans notre section, qui est la troisième de cette conclusion, les versets 21 à 23, il est question de s'assurer de faire partie de ceux qui entreront dans le royaume des cieux. Car beaucoup, dit Jésus, se verront refuser l'entrée au jour du jugement dernier. Qui entrera dans le royaume des cieux? C'est notre deuxième question, à laquelle Jésus répond au verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. qui entrera dans le royaume des cieux ? Celui-là seul qui fait la volonté de son Père, dit Jésus. Nous pourrions le dire autrement, en utilisant ce que Jésus dit dans ses autres sections de sa conclusion. Ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont par exemple ceux qui passent par la porte étroite et qui marchent sur le chemin resserré, ou qui portent du bon fruit, ou qui mettent en pratique les paroles de Jésus, qui font la volonté de son Père. Notons ici que parler du royaume des cieux, c'est parler de la vie éternelle, dans la présence de Dieu. C'est cette réalité, cette possibilité, cette espérance que Jésus est venu nous apporter. Jean-Baptiste, conduit par l'Esprit de Dieu, l'avait bien compris quand il dit, c'est un petit peu avant le sermon sur la montagne, au chapitre 3, versets 1 et 2, « En se tuant là, parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Oui, il était proche parce que le ministère de Jésus allait commencer, ministère qui allait inaugurer la venue de ce royaume. Qui entrera dans le royaume des cieux ? Notons aussi que ce que Jésus ne dit pas ici, il ne dit pas que ceux qui entreront dans le royaume des cieux sont ceux qui le suivent, ceux qui prient Dieu, ceux qui ont été baptisés, ceux qui écoutent son enseignement, ceux qui donnent de leur bien à Dieu. Jésus ne dit pas ça. Ces choses sont toutes importantes, mais elles ne sauvent personne. Elles ne sauvent personne par elles-mêmes ou par le simple fait de les accomplir. Ceux qui entreront un jour dans le royaume des cieux, dit Jésus, ce sont seulement celles et ceux qui font la volonté de son Père. Ce qui nous amène à la question suivante. Comment faire la volonté du Père ? En prenant l'image de la première section de la conclusion du sermon sur la montagne, nous pourrions dire qu'il s'agit non seulement d'entrer par la porte étroite, mais aussi de marcher sur le chemin resserré. En prenant l'image de la quatrième section de la conclusion, nous pourrions dire qu'il s'agit non seulement d'entendre les paroles de Jésus, mais aussi de les mettre en pratique, de construire sa vie sur ces paroles. Comment faire la volonté du Père ? En obéissant à la parole de Jésus, en suivant son enseignement, en tenant compte dans ma vie de tous les jours, en mettant en pratique dans ma vie la parole de celui que j'appelle Seigneur. Certains sont certainement peut-être en train de commencer à se dire que ça commence à ressembler au salut par les œuvres. C'est pourquoi il nous faut aborder la question suivante. Comment sommes-nous sauvés ? La réponse traditionnelle, basée entre autres sur Jean 3,16 et d'autres passages, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire pour être sauvé. Autrement dit, le salut, la vie éternelle, l'entrée dans le royaume des cieux est accordée par le moyen de la foi. On sera tous d'accord avec ça. Et l'apôtre Paul va dire dans sa lettre aux Éphésiens que c'est une grâce. Ce n'est pas en vertu des œuvres, dit-il. C'est une grâce, afin que personne ne fasse le fier, afin que personne ne se glorifie. Oui, le salut est par grâce au moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres. On est aussi d'accord avec ça. Mais, dit Jacques, dans son épître, la foi véritable est toujours accompagnée d'œuvres. C'est pourquoi, dit-il, une foi sans œuvres est une foi morte. Mes frères, dit-il, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Et puis un peu plus loin, au verset 17, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Alors non, les œuvres ne sauvent pas. Mais la foi véritable est toujours accompagnée d'œuvres. Elles sont indissociables. Et cela amène Jacques, en conclusion de ce passage, où il aborde cette question, à dire au verset 24, « Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. » Vous l'avez compris, Jacques joue avec les mots. Il est d'accord avec Paul que seule la foi nous sauve, mais il veut que ses lecteurs comprennent qu'on ne peut pas dissocier les œuvres de la foi et la foi des œuvres. Ce qui lui permet de dire que c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement, puisque les œuvres accompagnent toujours la foi salvatrice. C'est cette même association que nous retrouvons dans notre passage. Quand Jésus dit que ce ne sont que ceux qui font la volonté de son Père qui entreront dans le royaume des cieux, Jésus n'est pas en train de dire ici que le salut est par les œuvres seules, mais que le véritable disciple est celui dont la foi se traduit par l'obéissance aux paroles de Jésus et par les œuvres qui vont en découler. Quelles sont les implications de cette parole forte de Jésus ? C'est notre question suivante. Et la première des implications de cette parole, c'est que tout le monde n'ira pas au paradis. N'en déplaise. Vous voyez à qui je pense. Hein. Comment il s'appelait ? Polnareff. Tout le monde n'ira pas au paradis parce que seul celui ou celle qui fait la volonté de Dieu, du Père, entrera dans le royaume des cieux, dit Jésus. C'est incontournable. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Il y a ceux qui entrent et ceux qui n'entrent pas. Il y a deux cas de figure possibles concernant celles et ceux qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Premièrement, il y a ceux qui refusent d'y entrer. Ça ne les intéresse pas. Ceux qui refusent de faire la volonté de Dieu. Ceux qui refusent de croire que Jésus est le seul chemin. Ceux qui refusent de se repentir de leurs péchés et qui mènent leur vie comme si Dieu n'existait pas et comme si Dieu n'avait pas des demandes sur leur vie. Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, dit Jésus. C'est une triste et terrible réalité incontournable dans notre texte et dans toutes les Écritures. Et puis, deuxièmement, il y a ceux dont parle spécifiquement notre passage, c'est-à-dire celles et ceux qui se trompent sur leur compte, celles et ceux qui pensent pouvoir entrer et qui seront refoulés au jour du jugement dernier. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Et à la fin, Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connu. Ce passage, quand nous comprenons bien de quoi il retourne, est terrifiant. Terrifiant parce qu'il nous fait comprendre qu'au jour du jugement dernier, beaucoup découvriront qu'ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, alors qu'ils pensaient y entrer. Notons qu'ils ont pourtant quelques actifs, quelques crédits à leurs actifs. Ils appellent Jésus Seigneur. Ils ont parlé en prophète par le nom de Jésus. Ils ont chassé des démons par le nom de Jésus. Ils ont fait beaucoup de miracles, toujours par le nom de Jésus. Et sans doute qu'ils étaient pour la plupart sincères dans leurs agissements au nom du Seigneur. Mais que leur dira Jésus ? Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu veut dire qu'à aucun moment, ils n'ont été dans une relation vraie à Dieu par Jésus-Christ. Jamais ils n'ont été dans une véritable communion avec Dieu par le Christ. Jamais leur vie n'a été transformée par le Christ. Jamais ils n'ont été une brebis du Seigneur, car le bon berger, dit Jésus dans Jean 10, connaît chacune de ses brebis. Je ne vous ai jamais connu. C'est sans doute une des paroles les plus effroyables de la Bible. Paroles effroyables qu'ils entendront avec stupéfaction au jour du jugement dernier. Non, tous n'iront pas au paradis. C'est vrai des non-chrétiens. Bien évidemment, mais c'est vrai aussi de beaucoup de celles et ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont finalement pas. Et cela nous amène à une deuxième implication de cette parole forte de Jésus. Il est possible de se tromper sur son salut et sur sa relation à Dieu. Pourquoi ces personnes se trompent-elles ? Peut-être parce qu'elles suivent des prophètes de mensonges dont Jésus parle juste avant, sans prêter attention à leurs fruits mauvais. Il y a des gens qui prétendent parler au nom de Jésus, mais qui ne sont pas des disciples de Jésus. Il faut être vigilant. Comment ? En regardant les fruits de leur vie. Est-ce que leur vie valide ce qu'ils disent ou est-ce que leur vie contredit ce qu'ils disent? Pourquoi ces personnes se trompent-elles? Peut-être aussi parce qu'elles n'ont jamais vraiment fait le pas décisif de la foi et de l'obéissance. Oui, elles suivent le Christ, mais de loin. Oui, elles suivent le Christ, mais sans s'engager. Elles vivent en ayant l'apparence du chrétien, mais elles ne le sont pas dans leur cœur. Vu de l'extérieur, elles semblent avoir tout juste, mais les apparences sont parfois trompeuses. Les plus anciens, je parle déjà comme un vieux, les plus anciens se souviendront peut-être avec moi de cette publicité pour le Canada Dry dans les années 80. Et que disait cette publicité pour vanter le Canada Dry ? Elle jouait sur sa ressemblance avec l'alcool. Et ça disait « Canada Dry, ça ressemble à de l'alcool, c'est doré comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. C'est pour ça que ça désaltère. » Oui, le Canada Dry, c'est de l'alcool en apparence, mais en apparence seulement. Et il en va de même pour les personnes dont Jésus parle ici. Elles se comportent comme des chrétiens, mais elles n'en ont que l'apparence. Leur cœur n'a pas été régénéré. Elles font des choses incroyables même, mais elles ne font pas la volonté du Père. Chers frères et sœurs, chers amis, ce que je suis en train de dire n'a pas pour but de vous faire douter de votre salut, mais de vous amener à vous poser les bonnes questions, de vous amener peut-être, je l'espère, à faire le choix d'enfin soumettre votre vie, si ce n'est pas déjà fait, à celui qui seul peut vous sauver et vous faire entrer dans le royaume des cieux. Êtes-vous dans la foi à Jésus-Christ ? Votre vie a-t-elle été transformée par la rencontre avec le Christ? Votre vie est-elle marquée par le désir de lui obéir? Bien sûr, nous n'y arrivons pas toujours. Et il nous arrive même de ne pas obéir, de désobéir. Mais ce n'est pas de perfection dont il est question ici, mais de vie qui cherche à marcher dans l'obéissance à Jésus et qui compte sur sa grâce, oui, sur sa grâce, quand elle n'y arrive pas. Quand nous décidons de suivre Jésus, il faut que ça se traduise par du changement dans notre vie. Quand je viens à Jésus par la foi, je passe par une nouvelle naissance. Mon cœur est régénéré, je reçois l'Esprit de Dieu et il y a maintenant en moi une vie nouvelle qui m'incite à obéir au Christ et à tenir compte de ce qu'il dit. Si suivre le Christ ne fait aucune différence dans ma vie, alors à la lumière de notre texte, je dois me poser des questions, de sérieuses questions. Je dois m'examiner, je dois me placer devant Dieu pour savoir si je suis sur le bon chemin. Est-il resserré ou spacieux? Est-ce que je suis vraiment passé par la porte étroite? Y aurait-il quelque chose que je n'ai pas encore compris? Chers amis, suivre le Christ doit se voir. Encore une fois, je ne parle pas ici de perfection, mais d'obéissance, d'acte d'obéissance, de désir d'obéissance. Si ma vie de chrétien ressemble finalement à celle de ceux qui ne le sont pas, alors il est possible que je m'illusionne sur ma vie chrétienne, que je me trompe moi-même. Que Jésus ne soit ni mon sauveur, ni mon Seigneur. Notre texte attire notre attention sur le fait que nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce qui est déterminant, ce que nous pouvons dire à partir de ce texte, ce n'est pas le service que j'accomplis, car je peux l'accomplir pour de mauvaises raisons. Ce ne sont pas les paroles que je dis, car je peux les dire sans les mettre en pratique. Ce ne sont pas les grandes choses que je peux accomplir, même au nom de Jésus. Notons d'ailleurs que l'utilisation du nom de Jésus n'est pas la garantie que Jésus soit impliqué. À trois reprises, dans notre texte, Jésus souligne que c'est par son nom, que certaines choses ont été dites et faites. Et pourtant, il ne connaît pas ces personnes. Connaître au sens du salut, bien évidemment. Pour ce qui est des miracles dont parle le texte, littéralement des actes de puissance, il faut rappeler ici que même s'ils sont impressionnants et faits au nom de Jésus, ils peuvent ne pas venir de Dieu. Un miracle n'est jamais la garantie que Dieu en est l'auteur. Les non-chrétiens peuvent faire des miracles. Même Judas, l'Iscariote, qui a trahi Jésus, a fait partie de ces disciples qui ont été envoyés par Jésus en mission pour prêcher la venue du royaume de Dieu et pour accomplir des miracles. Matthieu 10, versets 2 à 8, je lis rapidement, voici les noms des 12 apôtres et on trouve celui de Judas l'Iscariote. Verset 5, Jésus envoya ces 12-là en mission. Il leur dit différentes choses. Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Nous devons être vigilants et ne pas prendre pour de l'or tout ce qui brille. Attention à ne pas nous laisser abuser par tout ce qui impressionne, même accompli au nom de Jésus. Car si ce sont des actes de puissance, encore faut-il déterminer la puissance qui les accomplit. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens que Satan se déguise en ange de lumière, ce qui veut dire qu'il se fait passer pour un envoyé de Dieu. Un ange, c'est un messager de Dieu. Et il ajoute, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus, en parlant de la fin des temps, et la fin des temps, bibliquement parlant, ça va du moment où Jésus monte au ciel jusqu'au moment où il revient. Donc nous sommes, bibliquement parlant, dans la fin des temps. Et que dit-il de cette fin des temps ? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Combien nous devons être vigilants. Combien nous devons exercer du discernement devant tout ce que nous entendons et voyons, devant tout ce qui est fait au nom de Jésus. Et un des problèmes, à mon sens, dans ce domaine, c'est un grand problème. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur Internet. Se passe sur YouTube, se passe sur les réseaux sociaux. J'ai rien contre une bonne utilisation de tout ça. Et sur ces réseaux-là, sur Internet, on voit et on entend beaucoup de choses. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se nourrissent leur foi sur Internet. Mais avec l'impossibilité de voir ceux qui les enseignent et de voir si les fruits de leur vie sont bons ou mauvais. Avec l'impossibilité de voir vivre ces personnes. Et notre texte nous fait comprendre que ce à quoi nous devons regarder, ce ne sont pas les accomplissements des uns et des autres, aussi grands soient-ils, mais les fruits de la vie. Chers amis, le christianisme est rempli de choses et de personnes qui ont l'apparence de la piété. Je prends ici une phrase de l'épître de la lettre à Timothée, qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la force. Alors peut-être que vous trouvez que j'exagère quand je dis que le christianisme est rempli. Pierre, quand même, tu exagères. Réécoutons ce que Jésus dit au verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là. N'avons-nous pas en ton nom ? Il n'est pas question ici de non-chrétiens, mais de personnes qui agissent au nom de Jésus. Et Jésus dit qu'il y en a beaucoup. Attention donc à ne pas donner la valeur du salut ou de l'authentification de la foi à des choses qui peuvent être falsifiées. Tout ce qui est fait au nom de Jésus ne vient pas de Jésus. Tout ce qui est fait au nom de Jésus n'est pas fait par des hommes et des femmes qui ont soumis leur vie à Christ. Dire que Jésus est mon Seigneur ne suffit pas, si je comprends bien le texte. Même si la confession verbale est bien évidemment essentielle, importante, prophétiser au nom du Seigneur ne suffit pas. Chasser des démons au nom du Seigneur ne suffit pas. Faire des miracles au nom du Seigneur ne suffit pas. Le critère qui est absolument déterminant, c'est l'obéissance à Christ, à son enseignement. C'est la mise en pratique de ses paroles. C'est accomplir la volonté du Père. C'est dire et faire en cohérence. Et dans un texte parallèle de l'évangile de Luc, Jésus le tourne un petit peu autrement, en tout cas Luc tourne les choses ainsi, et Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ce sont les fruits de l'obéissance qui authentifie l'arbre, dit Jésus. Pas les belles déclarations, pas les belles prophéties, pas les beaux miracles, pas les capacités spirituelles extraordinaires. Attention donc à ne pas nous laisser abuser et à ne pas nous abuser nous-mêmes sur notre salut et sur notre relation à Dieu. Et puis attention aussi peut-être à la manière dont nous présentons le salut. Nous aimons dire à juste titre qu'il est par grâce, par le moyen de la foi. Et peut-être que nous ne disons pas assez qu'il doit y avoir les œuvres qui accompagnent cette foi. Quelles sont les implications de notre parole forte? La troisième implication de notre passage, c'est que si les hommes peuvent être trompés ou tromper les autres, il n'est pas possible de tromper Dieu. Si notre passage éveille notre attention sur la possibilité donc de ces tromperies qui sont possibles, il attire surtout notre attention sur le fait que Dieu ne se laisse pas et ne se laissera pas abuser. Si Dieu tolère aujourd'hui des falsifications de son œuvre, parce que c'est de cela dont il s'agit, si Dieu tolère des usurpations de son nom, au jour du jugement dernier, tous les falsificateurs seront démasqués. Notons bien que c'est Jésus lui-même, le Seigneur, qui jugera les hommes en fonction de ce qu'ils auront fait, concernant la volonté de son Père. Et les falsificateurs seront non seulement démasqués, mais jetés au loin, loin de la présence de Dieu. Sur quelle base? Sur la base de leurs agissements mauvais. Verset 23, « Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Et l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 2, ceci. « Par ton obstination, parce que ton cœur se refuse à changer radicalement. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation, du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance, dans une œuvre bonne, cherchent la gloire, l'honneur et l'impérissable. Colère et fureur à ceux qui, par ambition personnelle, sont réfractaires à la vérité et se laissent persuader par l'injustice. Détresse et angoisse pour tout homme qui produit le mal, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque œuvre au bien, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec, car il n'y a pas de partialité chez Dieu. Non, Dieu ne peut pas être trompé, car il voit les cœurs et les agissements de chacun. Et au jour du jugement dernier, il rendra à chacun selon ses œuvres. Quelles sont les implications de notre parole forte ? Une quatrième et dernière implication, peut-être la plus importante, c'est qu'aujourd'hui est encore un jour de salut. Un jour où je peux me tourner vers Dieu si je suis loin de lui. Un jour où je peux revenir à Dieu si je me suis éloigné de lui. Un jour où je peux plier le genou devant le Christ si je l'ai confessé sans lui obéir. Notre passage est très fort, j'en suis conscient. Ça m'a beaucoup travaillé pendant toute la semaine. Et il peut nous déstabiliser. Mais telle n'est pas l'intention de Dieu. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Son but, ce n'est pas que nous soyons perdus, mais que nous entrions dans le royaume des cieux. Et d'ailleurs, il a fait tout ce qui était nécessaire pour cela, en donnant son Fils. C'est pourquoi, si le Seigneur a parlé à notre cœur ce matin, ne l'endurcissons pas, ne le fermons pas. Au contraire, ouvrons-lui notre cœur, peut-être pour la première fois, peut-être pas. L'important est que si j'appelle Jésus mon Seigneur, l'important, c'est que je lui obéisse. Parce que seul celui qui fait la volonté du Père entrera dans le royaume des cieux. Amen.